À l'occasion des Journées nationales de l'ingénieur et de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable, l'Université de technologie de Compiègne a organisé 3 conférences pour mettre en lumière des parcours engagés au service de l'ingénierie soutenable. Graphite s'associe à cette démarche en vous proposant de réécouter ou de découvrir en séance de rattrapage l'ensemble de ces conférences. Aujourd'hui, un parcours d'alumni entre ingénierie et engagement environnemental avec Victor Théry.
Bonjour à toutes et à tous, merci de venir aujourd'hui pour cette première conférence de la semaine dans le cadre des Journées nationales de l'ingénieur et de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable. Et donc pour cette première conférence, on accueille Victor Théry, qui est un diplômé de l'UTC en 2016 en ingénierie mécanique et qui va aujourd'hui nous parler de son parcours dans les différentes entreprises et organisations dans lesquelles il est passé, ce qu'il a pu voir du monde industriel lorsqu'on est diplômé ingénieur, et partager avec vous les questionnements qui sont posés, qui s'est posé, et peut-être que ça fera écho avec ce que vous rencontrez aujourd'hui. On remercie beaucoup Radio Graphite qui enregistre cette conférence et les deux prochaines, jeudi et vendredi. Et je laisse maintenant la parole à Victor. À toi, Victor.
Merci beaucoup Valentin. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Moi, ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. Ça faisait bien 10 ans presque que je n'étais pas revenu dans un amphi, en tout cas à l'UTC. Donc il y a des choses qui ont changé, il y a d'autres choses qui n'ont pas changé. On a la chance, on va dire, d'être en petit comité. Donc n'hésitez pas, après mon intervention, poser des questions. Parce que si j'ai bien compris par rapport à Graphite, il faut d'abord que... Enfin, si vous voulez poser des questions, il faudra que vous ayez le micro en main. Donc je vais d'abord... un peu faire état de mon parcours, voir ce que, enfin, vous expliquer, essayer de voir ce que moi j'ai vu dans le monde de l'entreprise, refaire un petit tour sur qu'est-ce que moi, en tout cas de mon prisme, j'entends par ingénierie soutenable ou durable, enfin selon le terme qu'on utilise. Et donc, en effet, mon parcours, donc je suis arrivé moi à l'UTC en 2010, tronc commun. J'ai fait 6 ans, donc j'ai fait un TC5 comme ça arrive à certaines personnes, et aussi une petite césure à la fin, donc ça m'a fait diplômer en 2016. J'ai été GSM, donc génie des systèmes mécaniques. Je crois que ça a un peu changé depuis les branches. GSM et CMI, donc conception plutôt. Nous à l'époque, sur la partie, alors, je ne sais pas ce qui se fait aujourd'hui à l'UTC dans les cours, mais moi à l'époque il n'y avait pas grand chose du tout, voire rien du tout sur la partie environnementale. C'était beaucoup moins un sujet à l'époque, c'était pas encore rentré en tout cas dans l'enseignement, où j'ai raté le peut-être seul module qui existait, et à l'époque je l'ai raté. Juste dans le parcours quand même à l'UTC, ce que j'ai fait, donc moi j'ai fait 2 stages qui à la base n'avaient rien à voir avec la partie environnementale, parce que bah, comme j'ai dit, c'était pas non plus une thématique forte à l'époque. J'ai fait un stage, ce qu'on appelle le chantier naval de l'océan Indien, donc c'était à l'île Maurice. J'ai eu la chance de faire ça, où j'étais un peu, on va dire, un équivalent ingénieur méthode, où je faisais le lien entre le bureau d'études et la zone de production, pour construire des bateaux de, on va dire, 30 mètres à 100 mètres sur le chantier naval, ou pour faire de la réparation de ces bateaux-là. Et après, j'ai fait un stage dans l'entreprise qui s'appelle Aqualung, c'est une entreprise de plongée sous-marine. C'est l'entreprise du commandant Cousteau, pour ceux qui sont connaissent, mais bon, c'était un grand plongeur en France en tout cas, et l'objectif était de démocratiser la plongée sous-marine, donc un projet plutôt d'innovation et de conception, pour faire en sorte que quand vous allez plonger, vous n'avez pas 10 kilos à mettre sur le dos et que c'est l'enfer avant d'arriver dans l'eau. C'est un sujet d'innovation, donc ça va pas forcément fonctionner, mais c'est pas grave, c'est ça l'innovation, c'est des fois il y a des ratés derrière. Et donc après l'UTC, je suis arrivé chez Decathlon. Donc c'était en 2016. J'ai commencé en étant ce qu'on appelle chez Decathlon ingénieur composant et technologie. Donc en fait chez Decathlon, donc vous connaissez peut-être l'entreprise, donc Decathlon qui à la base est plutôt une entreprise de distribution, donc de tout article de sport, et qui est devenue vraiment une entreprise aussi de conception, parce que maintenant 95% des articles qui sont vendus chez Decathlon sont conçus chez Decathlon. Et donc moi, en tant qu'ingénieur composant et technologie, j'étais sur la partie textile. Et donc ça veut dire, c'est quoi comme métier? En fait, c'est un équivalent technico-commercial, on va dire. Moi, j'avais une offre de textile et j'avais des ingénieurs produits en face, un ingénieur produit qui développe des tentes, des sacs de couchage, des ailes de kitesurf, qui venait me voir pour me dire j'ai un souci ou j'ai un besoin de développement, je vais faire ce produit-là. Voilà les contraintes qui sont les miennes, voilà les usages qui vont être ceux de mes clients. Est-ce que tu as un textile à me proposer ou est-ce qu'on le développe ensemble? Et dans ces cas-là, soit j'avais quelque chose dans ce qu'on appelle mon offre, et je lui vendais entre guillemets en interne, soit j'avais à côté des fournisseurs et je développais avec mes différents fournisseurs pour développer le textile qui allait correspondre à l'usage et à la technicité voulue. Donc ça, c'est la première partie que j'ai fait chez Decathlon. Je suis parti ensuite à la ville de Roubaix pour un métier qui est un peu atypique. C'est un métier qui n'existe pas vraiment en fait. On va dire des fois on nous appelait les mineurs urbains parce qu'en fait l'objectif de ce métier, donc c'était la ville de Roubaix, c'était assez particulier. On était dans le public, on n'était plus dans le privé. C'était un projet qui était, on va dire, sponsorisé par Interreg, donc c'est l'Europe. Donc c'était un peu un projet quand même exploratoire à l'époque, et l'objectif en fait assez basique était de faire quand même de permettre l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Et donc l'objectif c'était notamment de créer des synergies entre entreprises d'un territoire pour qu'il y ait des revalorisations de déchets. Donc, je vous donnerai plus d'exemples plus tard, mais j'ai fait beaucoup d'audits de déchets dans les entreprises et mon objectif était que ces déchets d'entreprise arrivent à devenir des ressources pour d'autres entreprises sur le territoire. En sachant qu'aujourd'hui, quand on va parler de recyclage, de réutilisation matière, la proximité et la distance est un des critères très importants, parce que dès que vous explosez les distances, en fait, économiquement, ça n'a plus de valeur. Et en fait, dès que économiquement, ça n'a plus de valeur, en fait, le monde de l'entreprise fait que ça part à la déchetterie. Enfin, à la déchetterie. Dans une benne, c'est juste valorisé et brûlé. Alors que des fois, en local, il y a des possibilités de faire des choses. Donc je vous en dirai, je vous donnerai des exemples à chaque fois. Donc là, j'explique un peu mon parcours et après, je vous donnerai des exemples un peu plus précis potentiellement sur ce qui s'est passé dans les différentes expériences. Dans ce cadre de cette mission à la ville de Roubaix, il y avait aussi l'idée de créer des appels d'offres, donc c'est-à-dire de permettre, on va dire, donc toujours dans cette logique d'audit déchets. Donc nous, on avait une banque de matière de déchets et l'idée était de mettre à disposition cette banque de matière avec notamment des appels d'offres pour faire en sorte que d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs puissent réutiliser cette matière. Et il y avait un coup de pouce économique pour justement qu'ils puissent démarrer des activités, démarrer le projet et faire en sorte que la revalorisation qu'ils souhaitent mettre en place fonctionne. Et donc après la ville de Roubaix, je suis arrivé chez ADO. Donc ADO, c'est quoi? ADO, c'est la maison mère du groupe Leroy Merlin notamment. Donc c'est Leroy Merlin, mais c'est aussi d'autres mondes du bricolage, c'est des entreprises comme Bricoman, Weldom. Bon, voilà, il y a plein d'entreprises du bricolage et de l'habitat qui sont sous ADO. Et en fait, ADO, donc, c'est la maison mère et c'est aussi la partie service pour ces enseignes de distribution. Et donc là, chez ADO, moi, j'ai deux casquettes métiers. Une casquette qui est ingénieur produit carrelage, donc j'ai des fournisseurs, je fais des cahiers des charges, je fais en sorte qu'ils créent ce que je souhaite. Et une autre partie casquette métier qui est ingénieur éco-conception, où là, mon métier est plus de réaliser des analyses de cycle de vie pour les différents produits qu'on a, qu'on produit, parce qu'en fait, ADO donc, est un distributeur, donc on va avoir des marques comme Bosch, etc., mais un peu à la même manière que Decathlon, on va faire nos propres produits. Et on va faire nos propres produits, du coup, des marques en fait, comme Geolia, Dexter, Artens. C'est de la marque, ce qu'on appelle la marque distributeur. Donc c'est ADO qui a ses fournisseurs, qui va les produire, etc. derrière, pour le délivrer au client et le mettre dans nos BU. Et donc ma deuxième casquette, c'est ingénieur éco-conception. Et donc dans cette casquette métier, bon, pareil, je vous donnerai des exemples un peu plus précis plus tard, mais l'objectif est assez simple, c'est réussir à comprendre l'impact environnemental de chaque produit, pour aussi derrière définir des stratégies pour les équipes et réussir à améliorer ce qu'on fait, ce qu'on distribue, ce qu'on produit d'un point de vue environnemental. Donc il faut savoir que juste si on remet dans le contexte, quand je suis arrivé chez Decathlon, on va dire que je pense qu'à l'époque c'était une entreprise qui était assez innovante, sur le, enfin, je ne sais pas si c'est innovante le terme, mais c'est en tout cas précurseur sur le sujet. Donc en 2016, parler d'analyse de cycle de vie, de calcul environnemental, d'impact environnemental, d'essayer de prendre ça en compte dans les développements, c'était encore très léger dans le monde de l'entreprise. La preuve, c'est quand je suis arrivé chez ADO en 2021, en fait, l'objectif était de créer ce pôle-là. Donc 5 ans après, ADO n'avait pas fait ce que Decathlon avait déjà démarré depuis plusieurs années et sur lequel Decathlon a vraiment dédié assez forte sur la partie environnementale. Et donc la question étant de comment je suis un peu arrivé sur sur la thématique plutôt environnementale, en fait c'est Decathlon qui m'a permis ça, parce que comme je disais, à l'UTC il n'y avait pas de module, il n'y avait pas de cours qui permettaient de réfléchir et d'apprendre sur ces thématiques-là, et en fait Decathlon me l'a permis, et je vous donnerai un peu plus l'exemple après. Et donc aujourd'hui, le thème c'est ingénierie soutenable, et déjà je trouvais le mot soutenable assez intéressant, parce que peu commun finalement, on parle plutôt de développement durable, de durabilité. Je me suis amusé, comme c'est toujours un peu amusant, de voir les différences de définition. Durable de nature à durer longtemps, soutenable qui peut être supporté. Et du coup, par rapport à ça, je trouvais que le mot soutenable était quand même super intéressant, parce que qui peut être supporté par qui déjà ? Qui peut être supporté par l'homme, par la planète. Et du coup, forcément, qui peut être supporté par l'homme et la planète, ça fait certainement penser à quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est la théorie du donut, donc qui est le petit schéma. Qui est à gauche, qui parle donc de Kate Raworth, qui parle d'un concept assez simple qui est qu'en effet, il y a un plancher social et un plafond environnemental. En effet, on a tous des besoins primaires, que ce soit sur l'eau, l'égalité, l'énergie, l'alimentation, la santé. L'autrice, elle détecte 12 besoins de base qu'on a besoin pour vivre dans ce monde soutenable, en tout cas pour l'homme. Et après, y a la logique des limites planétaires. Donc pareil, vous en entendez certainement parler. Vous en avez certainement entendu parler. Donc sur la biodiversité, la couche d'ozone, le changement climatique, etc. Et donc la logique de soutenable, elle me fait vraiment penser à ça, de comment on fait pour que ce soit soutenable pour l'homme. Donc on ait ce minimum de plancher social et que ce soit soutenable pour l'environnement, avec ce plafond environnemental derrière. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour que nous, ingénieurs, on arrive à répondre un peu à ces problématiques ? Et notamment, j'ai envie de dire aujourd'hui, faire en sorte, des pays développés, comment on arrive à faire en sorte qu'on revienne à ce plafond environnemental qu'on a, sur beaucoup de points, complètement explosé, quoi. Et donc, il y a le concept de 7 piliers de l'économie circulaire venant de l'ADEME, donc, qui est plutôt le schéma de droite, et qui part sur déjà trois grosses patates. La première qui est l'offre, donc qu'est-ce que nous on va produire, qu'est-ce qu'on va proposer. La deuxième qui est la demande et l'usage, donc qu'est-ce que vont faire les clients de demain, qu'est-ce qu'ils vont vouloir, et après la gestion de ce besoin des déchets. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et donc, par rapport à ça, je trouve ça intéressant de se dire, nous, où est-ce qu'on agit? En tant qu'ingénieur, où est-ce qu'on agit? En sachant que ce soit pour la partie de gauche ou pour la droite, c'est pas l'ingénieur qui agit tout seul non plus. C'est pas le seul métier d'ingénieur qui fera demain, on va dire, de l'éco-conception et qui améliorera le monde, bien sûr que non. C'est aussi de la logique politique, de la logique média. Vous pouvez être ingénieur si en politique on vous dit je remets les pailles à usage unique, vous aurez fait des pailles à usage unique, super. Donc bien entendu, c'est pas que l'ingénierie qui va permettre de faire en sorte que ce soit soutenable, que ce soit durable, mais par contre en tant qu'ingénieur de demain, sur chaque étape qu'on voit des piliers de l'économie circulaire, l'ingénieur peut avoir, il y a une place pour des ingénieurs. Donc il y a une place pour vous en tant qu'ingénieur demain pour travailler dans ces thématiques-là si c'est ça qui vous intéresse. La première, donc, c'est extraction et exploitation et achat durable. En tant qu'ingénieur, vous pouvez être amené demain à aussi finalement travailler un peu dans les achats. Donc qu'est-ce que vous faites pour le travail dans les achats ? Qu'est-ce que vous mettez en place en politique sociale et environnementale pour faire en sorte que les achats de demain soient meilleurs. Alors je fais un pas un peu de côté, mais à la ville de Roubaix, donc quand on est dans le domaine public, bah, les achats c'est aussi quelque chose de très important. Et en fait, bah, on se rend compte que ouais, les achats ça a une grosse part. En achat public, est-ce que je dis que je veux que 90% de ce que j'achète soit fait en local, dans des choses à côté, ou je dis bah, je m'en fiche, je prends sur le catalogue de je ne sais pas quel distributeur et j'ai pas de vue sur ce qu'est-ce qu'il produit et bah, de comment il le produit, bah, en fait il y a un vrai impact. Donc est-ce que je vais plutôt aller chercher des choses de proximité, des choses qui sont labellisées quand je vais faire mes achats? Bah ça va avoir son impact, bien entendu. Après, le deuxième, c'est l'éco-conception. Donc ça, c'est peut-être ce qui va nous paraître le plus logique, on va dire, en tant qu'ingénieur, parce qu'on va concevoir. Donc comment on va éco-concevoir? Et donc là, bah, y a la logique qui est assez connue, qui est la réalisation des analyses de cycle de vie, pour déjà comprendre bah, où est-ce que j'impacte. Qu'est-ce qui fait que dans ma conception, dans mon produit, dans mon procédé, qu'est-ce qui impacte sur la partie environnementale. Et donc après, bah, c'est à vous, en tant qu'ingénieur et en tant qu'équipe projet, parce que c'est jamais l'ingénieur tout seul qui participe à un projet, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, déjà, il faut la connaissance pour savoir après qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez améliorer derrière. Le troisième point qui est beaucoup moins connu, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Donc ça, pareil, je reprendrai l'exemple après, mais ça rejoint extrêmement ce que je faisais à Roubaix. Donc, c'est-à-dire permettre de créer des synergies territoriales pour faire en sorte que bah, il y ait moins de transport, parce que bah, vous créez quelque chose de manière territoriale. Et du coup, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur la matière première, vous créez cette synergie-là pour permettre d'éviter des choses qui n'ont pas lieu d'être, alors que votre voisin qui a des fois à 50 mètres, en fait, pourrait répondre à votre besoin. Et après, il y a l'économie de la fonctionnalité, donc bah, ça que vous connaissez certainement bien, mais en fait, qui est un bon vecteur de travail pour le métier d'ingénieur, parce que bah, l'exemple assez classique de l'économie de la fonctionnalité, c'est le Vélib. Et en fait, bah, ça, bah, en tant qu'ingénieur, c'est comment on répond au besoin qui est que, bah, en fait, c'est pas un vélo normal, le Vélib. Parce qu'il y a un besoin différent, donc il y a une conception différente, il y a un usage qui est différent. Donc l'ingénieur, là, dans sa conception, il doit réfléchir complètement le concept de bah, je veux faire déplacer des gens bah, avec des vélos, mais c'est sur quel vélo que je vais le faire. Et donc là, pareil, l'ingénieur, il y a un travail pour l'ingénieur sur cette partie économie de la fonctionnalité. Et après, on va dire, il y a plutôt la partie usage, donc client. Comment nous, en tant qu'ingénieurs, on change ça aussi. Et pareil, j'ai repris des informations, enfin des exemples d'entreprises, parce que bah, en fait, les exemples d'entreprises peuvent servir. Et bah, pour la partie consommateur, j'ai pris l'exemple de Yuka. Yuka, bah, y a donc l'application qui sert à noter enfin, ce que vous allez manger, par exemple. Pareil, il y a eu besoin de développement, il y a eu besoin de réflexion pour la méthode de calcul, etc. Donc potentiellement des choses qui vont être faites derrière par des ingénieurs. Et en fait, bah, Yuka, aujourd'hui, de par l'information aux consommateurs, bah, ça permet que, bah, en fait, il y a des clients donc, qui ont changé leur usage, qui scannent avec Yuka, qui du coup, des fois, choisissent des produits grâce à Yuka. Et en fait, ça change le monde industriel aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans de l'agroalimentaire, bah, le cahier des charges initiales, ça va être « moi, je veux être au moins B en Yuka, par exemple ». Et du coup, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il bah, y a peut-être moins de sel, il y a peut-être moins d'additifs, on va être plus sur du bio, et bah, en fait, ça va avoir un impact qui est derrière revenir sur le plafond environnemental. Et après, il y a aussi, bah, sur la partie usage, l'allongement de la durée de vie et d'usage. Donc ça, bah, c'est même des fois des cours que vous pouvez avoir en ingénierie ici, qui va être bah, comment je m'assure que mon produit répond à la vaisselle à X mille cycles de lavage, parce que c'est ce qui correspond à mon usage, et comment je fais en sorte que mon produit il tienne dans le temps. Comment je fais en sorte que mon produit puisse être réparable. Comment je ne fais pas forcément des choses où si elles sont déjà dures à démonter pour le client final, et du coup, bah, en fait, c'est sûr que ça part à la poubelle une fois que c'est utilisé. Donc ça, pareil, c'est dans la conception de l'ingénieur, dans l'éco-conception, qui va permettre de rendre un allongement de la durée de vie. Et après, sur la dernière partie, bah, la partie recyclage, bah, y a toute une filière sur le recyclage et il y a toute une panoplie d'ingénieurs qui travaillent dans ces filières-là, bah, soit sur les flux, soit sur la typologie de produits et comment revaloriser un produit. Donc aujourd'hui, on le sait, hein, sur du plastique, c'est je crois entre 10 et 20% du plastique qui est réellement recyclé, parce que bah, c'est pas si évident, il y a des millions de plastiques différents, enfin des milliers. Le métal, ça va un peu mieux, bon, ça dépend des typologies de matière, et ça c'est pareil, c'est des réflexions d'ingénieurs qui peuvent venir là-dessus. C'est un dessin très simple, mais c'est pour moi qui a un basique. En fait, dans la triptyque importante, c'est coût, qualité, délai. Et c'est vrai que c'est une triptyque qui, dans tout le monde de l'entreprise, est réelle. Hein. Enfin, on va souvent vous demander, OK, c'est quoi le coût, quel niveau minimum de qualité je veux et dans combien de temps je l'ai. Et en fait, si vous voulez demain faire de l'ingénierie soutenable, durable, bah déjà la première chose à faire dans l'entreprise dans laquelle vous allez être, c'est ajouter la brique environnementale et sociale à ce coût qualité délai. Aujourd'hui, ça paraît bête, mais il y a plein d'entreprises qui n'ont toujours pas cette brique-là. La brique environnement, quand je vais faire un développement, elle n'est même pas réfléchie au début de projet, elle n'est même pas pensée. Et donc la première chose quand vous arrivez dans une entreprise, c'est de dire, bah, moi j'accepte de travailler en tant qu'ingénieur et de faire en sorte que bah, le triptyque coût qualité délai soit le meilleur possible. Mais par contre, je souhaite ajouter la brique environnement à cette triptyque qui est vraiment la triptyque classique quand vous êtes en entreprise. Et du coup, maintenant, je veux plutôt vous parler d'exemples que j'ai eus dans les différentes missions que j'ai faites. Donc là, c'est un exemple chez Decathlon. Donc, comme je vous ai dit, j'étais ingénieur textile. Donc j'avais une offre de textile et je devais vendre, entre guillemets, et développer des nouveaux textiles pour des ingénieurs bah, de sacs, par exemple, ou des ingénieurs tentes qui derrière... développer des produits. Et en fait, bah, quand vous faites du textile, vous vous rendez compte d'une chose, vous faites une ACV. Donc, Decathlon était assez fort pour faire des ACV de manière un peu automatique. Et vous rendez, la chose assez simple, c'est que quand vous faites une tente, 95% de l'impact, c'est le textile. Ça ne va pas forcément être le transport, ça ne va pas forcément être l'assemblage, parce qu'en fait, l'assemblage nécessite peu d'énergie. Ça reste des choses qui sont faites bah, en machine à coudre. Ce n'est pas très énergétique. Mais par contre, quand vous produisez un textile, bah en fait, il vous faut de l'énergie, soit pour la partie agriculture, il vous faut un besoin énorme d'eau, soit bah, pour la partie teinture, etc. Et en fait, donc, quand on a fait l'analyse de cycle de vie, on se rend compte de quoi ? C'est 40% de l'impact environnemental d'un textile, c'est la partie teinture. Et pourquoi c'est la partie teinture ? Parce qu'en fait, bah, quand vous allez mettre un textile, donc vous avez votre textile, et après, en fait, vous venez le mettre dans une très grande marmite, si j'exagère. Le process, c'est un peu ça. Donc, on va mettre un textile dans de l'eau qu'on va chauffer et pendant le textile va être avec des pigments et comme ça, les pigments vont pouvoir s'imprégner dans la matière. Et en fait, bah, là, on revient sur la partie chauffage qui est vite quelque chose qui est là ou qui prend de l'énergie en tout cas. Et du coup, okay, bah, la question était bah, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de diminuer l'impact environnemental sur cette partie textile ? Donc, on a essayé de chercher, il y a plusieurs idées hein, qui sont venus, et notamment celle qui s'appelait le dope dye. Donc en fait, dans le textile, je vais être assez rapide, donc il y a les matières naturelles, les matières synthétiques. Donc les matières synthétiques qui sont quand même très utilisées dans le domaine du sport, pour souvent mieux évacuer la transpiration, on va dire. En fait, vous avez les petites particules de polyester, qui sont les petites particules à gauche. Et l'idée, c'est de se dire, plutôt que de partir sur des particules blanches, qui sont vraies, bah, après, vont être teintes, c'est d'intégrer la matière directement au moment de l'extrusion, la matière, directement à l'étape granulée. Et du coup, en fait, bah, le fait de faire ce process-là, et donc après, c'est sûr, vous êtes limité, parce que bah, une fois que je commence ça, je commence à tisser, bah, j'ai forcément un textile qui est noir. Et du coup, j'ai plus de flexibilité d'un point de vue appro, supply. C'est pas comme si je venais stocker 1 million de mètres carrés qui est blanc, et après, ce blanc, je peux en faire n'importe quoi. Bah, là, je vais choisir une couleur dès le départ, et ça veut dire que plutôt qu'avoir 1 million de mètres carrés de blanc, et après je vais le séparer, je vais teindre différentes couleurs parce que j'ai envie d'avoir les couleurs qu'il me faut. Bah là, ça veut dire que dès le départ, il me semble plutôt avoir 100 000 mètres carrés de noir, 100 000 mètres carrés de rouge, 100 000 carrés de blanc, etc. Et donc en fait, ce process-là permet de juste éviter le process de teinture. Et bah, éviter le process de teinture, ça nous a permis du coup de diviser par deux, enfin quasiment, enfin, allez, on va dire par trois plutôt, l'impact environnementale de quand vous faites un produit. Ça tombe bien, le noir, c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans le textile. Enfin, c'est la couleur un peu basique, donc pour le noir, c'était facile. On a décidé d'aller plus loin, donc c'est-à-dire qu'on a fait d'autres couleurs. On a, à chaque fois, on essayait de faire d'autres couleurs, ce qu'on appelait nos couleurs gros runners. On le faisait ce qu'on appelle en dope dye pour obtenir, pour éviter de faire cette partie teinture. Donc ça, c'était la première solution. Après, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et par rapport à cette contrainte, on va dire, stock, comme je vous ai expliqué un petit peu, de fil, dès le début, vous faites une couleur, est-ce que c'est pas possible de finalement tisser différent et tisser ce fil qui a été noir avec des fils de différentes couleurs pour obtenir d'autres couleurs, multiplier le nombre de couleurs qu'on pouvait avoir. Donc c'est ce qu'on a appelé le piton à l'époque chez Decathlon. Et donc par exemple, ce noir, plutôt que faire en chaîne, je vais avoir un fil noir et en trame, je vais avoir un fil noir, et je fais en chaîne, j'ai un fil noir, après j'ai un fil blanc, et là ça me faisait un nouveau gris, par exemple. Et donc ça permettait d'obtenir différentes couleurs. Donc c'était encore une autre logique d'éco-conception par rapport à la volonté de ne pas faire le process de teinture qui est le process énergivore. Et donc après on a été encore un peu plus loin à l'époque chez Decathlon, c'est on s'est dit est-ce qu'on peut pas simplement, donc là on est un peu moins dans la logique ingénieur mais même dans la logique offre, parce que de toute façon comme je l'ai dit, c'est pas que l'ingénieur qui va trouver les solutions, et là c'était plutôt une logique offre qui était de dire est-ce qu'on n'arriverait pas à vendre des choses blanches, choses qu'on n'aurait pas fait historiquement, mais est-ce qu'un sac blanc en fait le client ne souhaiterait pas le vendre. Donc en fait on a fait des offres plus large de produits qui n'étaient juste pas teints. Et ça, finalement, ça a trouvé son usage, ça a trouvé son client aussi. Donc ça a permis de, encore une fois, éviter ce process de teinture pour faire ça. Donc après, ça, c'était un des exemples. Et après, dans le textile, on aurait pu facilement dire, en fait, est-ce que c'est pas mieux le recycler dans le textile? Ce qui est vrai, ce qui est, pourquoi pas, et c'est aussi une manière d'éco-concevoir le recycler. Mais quand on faisait l'exemple de l'ACV, l'analyse de cycle de vie, de est-ce que c'est mieux de mettre du recyclé ou est-ce que c'est mieux de juste éviter le process de teinture, en fait vous comprenez que c'est finalement mieux de juste éviter le process de teinture. Alors des fois ça paraissait pas évident pour tout le monde parce que les gens pouvaient se dire non, c'est mieux de faire du recyclé, je prends de la matière et je réintroduis de la matière, donc c'est forcément plus logique. Ouais, mais en même temps, faire le process de teinture, c'est X 1000 litres d'eau d'utiliser en plus, et c'est de l'énergie, et cette énergie, c'est bien quelque chose à la base. C'est du charbon, c'est du gaz, c'est du solaire, quand on a de la chance, c'est de l'énergie. Donc c'est quand même une utilisation de matière. Donc c'est la même... Donc voilà, le dope dye finalement est apparu pour être une partie de la solution, parce qu'après, des fois, on avait des couleurs un peu particulières, je sais pas, des fois, il y a du turquoise. Le turquoise, on n'aurait pas eu assez de quantité pour le faire en dope dye. Donc là, on était plutôt sur la politique, on met du recyclé et on va mettre le turquoise. Donc voilà pour chez Decathlon, qui est vraiment là, pour le coup, on va dire un exemple d'éco-conception. On ne change pas l'usage, on fait juste en sorte d'essayer de, pour un même usage, avoir un impact un peu plus faible sur le produit. Donc là, un sac à dos, avoir un usage un peu plus faible. Donc après, c'est l'exemple à la ville de Roubaix. Que je vais vous donner, donc, c'est l'exemple d'écologie industrielle et territoriale. Il est beaucoup moins connu, il est vraiment beaucoup moins connu, il serait amené, je pense, à augmenter. En fait, donc, pour rappel, ce que je faisais à Roubaix, j'étais ce qu'on appelle mineur urbain. Bon, c'est pareil, c'était un concept, mais mineur urbain, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je réalisais des audits de déchets pour les entreprises. Enfin, j'étais à la ville de Roubaix, j'allais réaliser les audits de déchets des entreprises du territoire, et mon objectif c'était que ces déchets soient réutilisés dans une logique assez locale, pas par élan patriotique de la ville de Roubaix, mais plus parce que dès qu'on allait s'éloigner économiquement, ça n'allait plus valoir le coup, et ça ne serait pas fait. Et du coup, ça veut dire quoi concrètement l'écologie industrielle, les exemples qu'on a pu avoir? Donc Roubaix, il faut savoir que c'est une grande terre du textile à l'époque, donc encore resté. Et donc, il y a quand même pas mal d'industries et d'entreprises sur le Roubaix-Zig qui sont des entreprises productrices, pas forcément de services. Et donc, il y a par exemple une grande entreprise, donc là, qui n'est pas textile, mais qui était plutôt pour l'informatique, et qui, chaque semaine, en fait, elle recevait des composants informatiques. Chaque semaine, elle jetait 3 bennes de mousse, parce qu'en fait, pour recevoir ces composants informatiques, l'entreprise... c'était des composants informatiques qui coûtaient très cher, donc tout était dans des mousses pour le transport, etc. Et donc, l'entreprise jetait 3 bennes par semaine de mousse d'une grande qualité qui avait servi pour recevoir les composants informatiques. Et en fait, donc, la synergie qui a été faite par rapport à ça, par rapport à Roubaix, c'était audit déchets de cette entreprise. Les déchets, c'est un problème pour l'entreprise. L'entreprise, elle ne va pas aimer les déchets. Fort heureusement, en plus, aujourd'hui, le coût du déchet est amené à être de plus en plus élevé. Donc c'est bien, parce que ça permet aux entreprises de se reposer un peu plus la question de comment valoriser ces déchets. Et du coup, 3 bennes par semaine de déchets, c'est quand même un gros coût pour l'entreprise à la fin. Donc l'entreprise, elle était favorable. Si j'arrivais à trouver une solution pour elle, elle était très intéressée. Et en fait, à Roubaix, il y a aussi un pôle d'acteurs qui est assez connu, est très connu, le e-commerce. On a plein d'entreprises, il y a un incubateur de e-commerce qui est derrière. Donc qui dit e-commerce, en fait, dit beaucoup d'envois, des achats, et du coup, vite, beaucoup d'envois. Et en fait, ces personnes-là, c'est des entrepreneurs, c'est plutôt des petites entreprises aujourd'hui qui sont sur Roubaix. Et en fait, ce qu'on a proposé, c'est de leur offrir une solution où ils avaient des mousses un peu toutes faites, pour pas qu'ils réutilisent, qu'ils achètent de la matière pour protéger leurs produits, pour qu'ils renvoient. Donc en fait, c'était une boucle d'économie circulaire qu'on a été créée entre l'entreprise numéro 1 qui avait ses déchets, qui avait ses 3 bennes par semaine qui lui coûtaient un bras, une entreprise numéro 2 qui, elle, était plutôt là pour faire le tri et la redécoupe si besoin des mousses, et le lot d'entreprise numéro 3 qui était tous les entrepreneurs qui avaient besoin de matériaux de protection pour faire leur envoi produit. Donc ça, c'est une des synergies qui a pu être créée. Une autre qui paraît un peu basique, mais qui existe et qui va exister dans toutes les entreprises, c'est la palette. Les entreprises, donc aujourd'hui, il existe les palettes Europe, ça c'est plutôt bien géré, c'est plutôt une bonne chose sur la logique d'économie de la fonctionnalité. La palette Europe, c'est quelque chose qui est réutilisé, qui revient vite dans le circuit, et que tout le monde arrive à réutiliser. La réalité, c'est que les palettes Europe, c'est quand même beaucoup utilisé, mais une entreprise ne reçoit pas que des palettes Europe du tout quand elle commande de la marchandise. Et du coup, ça veut dire que c'est une palette qu'elle reçoit, et en fait, elle est obligée de l'acheter directement une fois qu'elle reçoit. Et donc à Roubaix, au fur et à mesure des audits déchets, je rencontre une entreprise qui me dit, moi, pareil, je jette une benne de palettes par semaine, tout le temps. Bon, et ça me coûte de l'argent, forcément. Et en fait, 100 mètres à côté, il y a quoi ? Il y a quelqu'un qui fait des redispatchs.
Une entreprise qui fait du redispatching.
Donc ça veut dire qu'une entreprise qui va, elle, recevoir sur une palette plein de produits et qui derrière va devoir reséparer en peut-être 5 palettes. Donc en fait, qui a un besoin énorme de palettes. Et donc pareil, la synergie qui a été créée là, dans le cadre du projet d'écologie industrielle et territoriale, c'est de faire en sorte que les palettes de l'entreprise A arrivent à l'entreprise B. C'est deux entreprises qui étaient à 100 mètres l'une de l'autre. Et en fait, des exemples comme ça, vous pouvez vite, dans beaucoup de zones d'activité, vous pouvez quand même assez rapidement en trouver. Donc c'est ça le but de l'écologie industrielle et territoriale, c'est de faire de la mutualisation en local, que ce soit sur la matière première, sur l'énergie ou sur le déchet derrière. Là, c'est donc un petit exemple qui est un petit aboutissement de la partie de ce projet. C'était ce qu'on appelait la matériothèque. Et donc, en fait, on avait, comme je vous ai dit, une banque de matériaux qui était assez large. Et en fait, vraiment, on a voulu retransformer ce déchet en termes de ressources, et essayer de le présenter comme ça. Donc pour ça, on avait créé un événement qui était une matériothèque où toutes les entreprises du territoire, après, sont venues pour faire un peu leur course, entre guillemets, dans la matériothèque qu'on proposait. Donc en fait, cette matériothèque, c'est vraiment la base, c'était du déchet de toutes les entreprises qui pouvaient exister. Et derrière, un appel à projet, donc ça a donné quoi ? Par exemple, en fait, ça a donné, dans l'appel à projet, j'ai eu 3 noms de lauréats. Il y avait Nogashi, qui était une entreprise qui récupérait les drèches de bière. Donc à Roubaix, on est dans le nord, il y avait un peu de bière, il y avait un peu de microbrasserie. Il y avait des chutes de bière, et en fait, des drèches, on appelle. Et donc avec les drèches, en fait, pareil, c'est un déchet. Le microbrasseur ne savait pas trop quoi en faire. Et en fait, il y a l'entrepreneur Nogashi qui est venu pour justement réutiliser ces drèches de bière pour en faire de l'alimentaire, de la nourriture, des biscuits, etc. Donc voilà, ça a été le lauréat. Il y avait l'entreprise Voé qui, elle, en fait, pareil, sur la logique revalorisation de la palette, était là pour refaire des granulés de bois à partir des palettes du territoire. Et après, bah, comme je vous ai dit, Roubaix est une entreprise textile, donc on a eu beaucoup d'entrepreneurs textiliens qui étaient là pour de faire de l'upcycling des différents déchets textiles qu'on trouvait à droite à gauche. Un bel exemple à Roubaix, c'est ceux qui s'appellent les trois tricoteurs. Et donc en fait, eux, c'est... Donc Roubaix est pareil, une terre de textile, donc il y a une école de textile un peu comme l'UTC. Et à la base, c'est juste trois étudiants qui sont mis en face de l'école de textile pour avoir, on va dire, un bar et une petite unité industrielle pour faire un textile. Donc le concept, c'est je viens prendre ma bière et en même temps, tu peux faire ton pull si tu as envie, quoi. Donc concept super, super intéressant. Et en parallèle, on a des personnes à Roubaix, il y avait des entreprises qui faisaient du fil donc, et qui avaient un stock énorme de fils, de bobines inutilisées. Et en fait, pareil, on a mis en lien ces deux acteurs. Et du coup, après, les trois tricoteurs ont fait des séries spéciales où ils ont été récupérer les déchets donc, qui étaient des bobines de fil restantes, des fins de bobines, etc., de la plus grosse entreprise pour les utiliser pour leur propre produit. Et après, donc, le dernier exemple qui est plus à date par rapport à moi, donc par rapport à Déo, donc c'est ce que je vous ai dit, les analyses de cycle de vie que je réalise à Déo. Donc le besoin en ACV est de plus en plus important dans les entreprises aujourd'hui. Et en fait, chez ADO, je fais des analyses de cycle de vie, moi, pour beaucoup de typologies de produits. Je suis sur ce qu'on appelle le marché donc jardin, donc ça peut être des tondeuses à gazon, je ne sais pas, tout ce qui va dans le jardin, du mobilier de jardin, etc. La partie revêtement de sol et la partie matériaux menuiserie. Et en fait, suite à ces ACV, donc on va dire la structure éco-conception chez ADO s'est créée il y a 3 ans, donc quand je suis arrivé. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on a un peu la connaissance, on peut faire accélérer beaucoup, enfin pas mal accélérer les choses. Je prends des exemples. Sur la partie carrelage, le carrelage, c'est quelque chose d'ultra énergivore. C'est-à-dire que quand il faut imaginer l'industrie carrelage, c'est des fours qui font entre 100 et 200 mètres de long. Et en fait, ça va à 1200 degrés. Donc je vous laisse imaginer le besoin en énergie qu'il y a derrière. Et du coup,
Et en parallèle, la matière
première du carrelage, c'est de l'argile, donc de la terre. Donc quelque chose qui est quand même assez important. Donc en fait, dès qu'on fait une ACV sur le carrelage, on se rend compte que ce qui impacte, c'est ce temps de chauffe, le four, et du coup l'énergie, la typologie d'énergie que vous utilisez. Et du coup, là, on travaille énormément avec nos fournisseurs pour essayer de reconcevoir un peu le carrelage pour faire de ce qu'on appelle de l'optimisation matière. Par exemple, une simulation 3D, et j'essaie de voir quelle matière plastique me sert à rien, et pourtant, là, et je l'enlève. Bah, sur le carrelage, un peu pareil, une logique un peu plus simple, entre guillemets, qui est de se dire, en fait, le carrelage, il n'y a pas besoin d'autant d'épaisseur. C'est quelque chose qui est ultra résistant, c'est pas votre épaisseur qui va déterminer la résistance du carrelage derrière. Et du coup, bah, on travaille pour changer les formulations et faire en sorte qu'il y ait une plus petite épaisseur. Et faire en sorte, après c'est un carrelage comme un gâteau, qu'il y ait besoin de passer moins de temps dans le four. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à diminuer l'impact sur l'environnement d'une trentaine de pourcents. Une autre logique, je vais bientôt finir. Une autre logique, c'est qu'on a encore quelques fournisseurs qui malheureusement sont encore au charbon. Là, on est en train de travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils changent leur source d'approvisionnement, qu'ils passent soit par des pellets de biomasse, soit par du gaz, qui est la chose la plus classique dans le carrelage. Donc en fait, une fois qu'on fait ces ACV, on peut écrire les stratégies. Vous pouvez écrire les stratégies avec les équipes projets, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas tout seul, pour dire dans quelle direction vous voulez aller. Et après, il ne faut pas l'oublier, mais toute chose que vous faites, comme vous n'êtes pas tout seul, il faut le communiquer. Si vous faites des choses bien, il faut le communiquer. Les gens voudront que vous le communiquiez. C'est un peu un penchant sur lequel on n'est en général pas très bon, les ingénieurs. On ne communique pas, on ne veut pas souvent communiquer à tire-larigot. Vous verrez, les autres, les autres métiers aiment énormément communiquer et dire quand les choses vont un peu bien. Donc, faut communiquer pour que le client, l'objectif sur le carrelage, c'est typiquement qu'on arrive à dire on n'a plus aucun fournisseur à charbon dans notre pool de fournisseurs, et on le communique, on en est fiers. Un autre exemple, après, que je peux vous donner, j'arrive sur la fin, c'est plutôt qu'ont permis les ACV, c'est plutôt sur la partie tondeuse. Et se dire, en fait, l'ACV, elle montre quoi sur la partie tondeuse? Que peu importe le fournisseur que vous avez, ce qui va impacter sur la partie tondeuse, c'est quand même son usage, parce que ça a quand même un peu un usage. Et donc, que vous soyez en électrique, en filaire, ou en thermique, ou en autre source d'énergie si ça existe, en fait, utiliser une tondeuse en thermique, c'est là où ça va avoir de l'impact. Bah, la stratégie qui a été définie chez ADEO, c'est de se dire, on va arrêter le thermique, on arrête de retravailler tout ce qui est tondeuse thermique, et on va se concentrer uniquement sur l'électrique. Et donc, après, je parlais de la communication, et ça, pareil, j'ai donné l'exemple de Yuka un peu dernièrement. Chez ADEO, on a sorti ce qu'on appelle le Home Index. L'idée, c'est que toutes les enseignes de bricolage suivent un peu le même mouvement. Et en fait, c'est qu'il faut communiquer aux clients. Là, vous êtes devant moi, vous êtes certainement, je suppose, des personnes un peu sensibles au sujet, donc vous faites des choix par rapport à ce sujet. Il y a plein de personnes sur lesquelles, en tout cas, ils ne sont pas autant informés sur le sujet, ils n'ont pas assez, ils n'ont pas cette connaissance-là, et bah, faut les informer. Donc aujourd'hui, le Home Index, c'est un peu la même logique que le Yuka du bricolage, avec cet objectif du ABCDE au client final, et une transparence vers le client pour lui expliquer pourquoi il a cette telle note. Donc voilà, moi j'ai fini là, donc je vais vous passer le micro après. Sur la seule conclusion que j'aurais à vous dire derrière, si vous posez la question comment je fais pour faire en sorte que mon métier d'ingénieur aille dans la direction de l'ingénierie soutenable, moi je vois deux solutions de toute façon. C'est travailler dans une entreprise dont c'est l'essence, travailler dans une entreprise où il n'y aura pas de dissonance cognitive par rapport au sujet environnemental. Donc ça peut être des entreprises, par exemple, je prends l'exemple de Yuka, par exemple, vous pouvez dire, et potentiellement pas travailler sur un métier d'ingénieur en tant que tel, mais travailler dans cette entreprise-là, soit avoir aussi, mais ça peut être aussi quand même travailler en tant qu'ingénieur, soit avoir travaillé dans une entreprise dont c'est quand même un des piliers, mais c'est pas forcément l'essence. Je suis chez ADEO, c'est une marque de grande distribution, faut faire des choix des fois. Comme je vous ai dit, l'ingénierie soutenable, aujourd'hui en entreprise, elle repose sur les quatre piliers, coût, qualité, télé, environnement. Mais il y a quand même la brique coût, il y a quand même la brique délai, il y a quand même la brique qualité. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler pour faire le meilleur compromis entre les quatre briques. Donc voilà, merci en tout cas pour l'écoute, et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.
Merci beaucoup Victor pour ton intervention qui était très riche et avec tes exemples précis où tu parlais de technique, de compétences d'ingénieur, et tout en remettant l'ingénieur au milieu de son écosystème. Tu parlais des autres services avec lesquels on peut être amené à interagir, les services publics, la politique aussi qui nous touche évidemment. On va faire circuler le micro dans la salle. Si certains ou certaines d'entre vous ont des questions, vous pouvez d'ores et déjà lever la main.
Bon, d'abord, merci pour cette super conférence qui était très instructive. Alors, j'avais une question, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Vous avez parlé de dissonance cognitive, justement, en fin de conférence. Est-ce que vous avez déjà expérimenté un cas dans ce genre, et comment vous l'avez confronté ?
Je ne dirais pas que je l'ai déjà expérimenté une fois, c'est que vraiment dans le monde de l'entreprise, c'est quotidiennement de la dissonance cognitive, parce que il va falloir faire, comme j'ai dit, ce choix entre le coût qualité, délai, environnement, et dans le monde de l'entreprise, clairement, il y a des typologies de métiers et des personnes qui, elles, vont vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le coût soit le plus faible possible. Et c'est normal, parce que leur métier fait en sorte qu'ils veulent vendre le maximum, que ce soit que les clients aient les produits de manière la plus accessible possible. Et donc, moi, je reste persuadé que la meilleure manière pour sortir de cette dissonance cognitive, mais elle existera toujours en entreprise, je pense, c'est quand même la vulgarisation de ce qu'on fait et la communication par derrière. Je reprends l'exemple de Yuka, qui, moi, pour moi, est vraiment un parfait exemple. C'est que le client ne bouge pas tant que vous ne lui donnez pas l'information. Et une fois que vous lui donnez l'information, il ne va pas forcément bouger. Mais en tout cas, si vous ne lui donnez pas l'information au début, le commercial en face ou le marketing, il va vous dire « Oui, mais moi, mon client veut ça. » Oui, mais parce que le client ne sait pas ça. Donc soit, en effet, comme je vous dis, vous travaillez dans une entreprise dont c'est l'essence. Et donc, toute l'histoire de l'entreprise, elle est aussi basée sur la partie environnementale, RSE. Et donc, il y a moins de dissonance cognitive dans ces cas-là. Parce que vous êtes forcément peut-être plus en lien avec vos valeurs directement et il y en a moins. Mais dès que vous êtes dans une autre entreprise qui, dont ce n'est pas l'essence et donc qui doit faire du business quand même, on va dire as usual, et bah, ouais, c'est là où il va falloir vulgariser, il va falloir communiquer, il va falloir faire en sorte que les, vos clients enfin de demain ils aient l'information pour faire leur choix en transparence. Après, si vos clients ne veulent pas bouger quand même sur cette thématique-là et que vous, vous avez quand même envie d'avancer les choses, bah, il peut y avoir quand même des blocages. On peut toujours proposer des choses qui sont mieux. Si elles sont 100 euros plus chères, elles ne sont pas prises. Donc, il faut réussir à trouver ce juste milieu, encore une fois, bah, avec ces, entre ces quatre briquettes qui font qu'on arrive à trouver le juste milieu. Ouais.
Merci pour cette question et pour cette réponse. On avait une seconde question de la part d'une autre étudiante.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir sur pourquoi vous êtes allé dans ce domaine? Est-ce que c'est juste le fait d'arriver à Decathlon et de faire de l'ACV qui vous a fait devenir un ingénieur ACV? Ou est-ce qu'il y a des convictions plus personnelles qui vous portent là-dedans? Parce que ça ne doit pas être facile dans une entreprise où justement ce n'est pas un des piliers de se faire entendre, ou peut-être déjà parfois de dire bah, ce produit, il faudrait l'arrêter en fait. Enfin, quelque part où il faut faire du coût et du profit.
Derrière, il y a forcément des convictions personnelles. Je pense que de toute façon, toute personne qui travaille un peu dans ce milieu-là a des convictions personnelles parce qu'en entreprise, c'est pas. Je pense que ça reste un milieu où vous allez prendre beaucoup de petits murs parce qu'une partie de l'entreprise n'est pas du tout d'accord avec ce que vous allez faire. Donc, je pense qu'il y a forcément des convictions personnelles. Après, moi, c'est plus techniquement où j'ai appris chez Decathlon, entre guillemets. Parce qu'avant, je n'avais pas appris dans. J'avais pas forcément appris à l'école et c'est via mes premières années chez Decathlon ou en tout cas techniquement j'ai appris. Après, je pense que globalement, toutes les personnes avec qui je travaille un peu sur la thématique, y a toujours des convictions personnelles derrière parce que, en effet, c'est pas une thématique classique d'entreprise. Des fois, vous allez être un peu en confrontation par rapport au business model qui a été écrit initialement. Ça plaît pas forcément à tout le monde non plus derrière.
Et on a une autre question en haut de l'amphi.
Bonjour, déjà merci. J'étais beaucoup intéressée par l'écologie industrielle et territoriale. Et déjà, je voulais savoir si vous aviez fait IM, c'est ça, ou comme branche.
Alors à l'époque, c'est vrai, ça s'appelait GSM Conception, donc CMI. Mais je pense que c'est le IM d'aujourd'hui. Ouais.
Ok. Et parce qu'en fait, du coup, c'était un métier qui était peut-être moins axé technique, de ce que je comprends.
Et beaucoup plus gestion de projet, ouais.
Ouais, c'est ça. Et... moi, ça m'a beaucoup intéressé, si vous pouvez un peu développer, et aussi pourquoi vous avez arrêté aussi, je ne sais pas si vous l'avez précisé.
Ouais. Non, je ne l'ai pas précisé, voilà. En effet. Donc en fait, pour être plus précis sur le... Donc c'était un projet payé par Interreg. Donc déjà, c'était un projet de 3 ans payé par Interreg, donc c'est l'Europe, qui finançait ce projet. Donc la ville de Roubaix avait postulé, et ça avait été accepté avec la ville de Roubaix. Donc on était 5-6 villes en Europe à faire ce test, hein, parce qu'en effet, ça n'existait pas ailleurs. J'ai arrêté plus, on va dire, par des soucis de management dans le public, qui est un peu différent que dans le privé. Mais pour autant, le projet était ultra intéressant. Moi, ma conviction, c'est que demain, ça doit être repris, ce sujet, par en fait, des entreprises comme Veolia ou Suez, parce qu'en fait, eux, les audits de déchets, ils les font déjà. Sauf qu'aujourd'hui, hein, Suez et Veolia... Ils vont voir une entreprise, ils font les audits des différentes déchets qu'il va y avoir dans l'entreprise. Et en gros, ils vont leur proposer 4 bennes. Quoi. Enfin, une benne selon les besoins, une benne, ce qu'on appelle la DIB, donc tout venant, une benne bois, une benne plastique. Enfin, voilà. Veolia et Suez s'arrêtent un peu là. Et après, eux, ils rachètent la benne à X kilos la tonne. Enfin, ils font payer la benne plutôt à X kilos la tonne. Et en fait, je pense que comme eux, ils ont cette compétence quand même audit déchets, eh ben, il suffit que eux, ils ajoutent un peu une compétence à la personne qui fait ce déchet pour aussi comprendre quel matériau pourrait être un besoin pour l'autre, chez qui il va faire l'audit, pour permettre en fait de faire ces boucles qu'aujourd'hui moi j'avais fait plutôt sous le chef expérimental de la ville, etc. Donc, je pense et j'ose espérer que c'est quelque chose qui va se développer. Et notamment, j'ose espérer par cette typologie d'acteurs-là, ça pourrait être par du public. Je pense que là, aujourd'hui, ça a fonctionné, en tout cas, dans mon cas, par du public, parce qu'il y avait de la subvention. parce que c'était l'Europe qui avait subventionné, parce que c'est des tests et qu'il faut commencer comme ça. Ouais, je pense que ce sera à terme si c'est repris. Enfin, j'imaginais, en tout cas moi bien à l'époque, des personnes qui sont spécialisées dans l'audit déchet et dans le déchet, ajouter cette compétence à leur arc, de réutiliser le déchet plutôt que juste avoir d'ébène et de le revaloriser de manière un peu plus classique, on va dire. En sachant qu'il y a aujourd'hui, et ça c'est la chance d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui souhaitent revaloriser. On parle de recycler, il y a 20 ans, c'est très mal vu. Le recycler, c'est quelque chose qui n'est pas qualitatif, il va y avoir de la casse. Le recycler, il y a 20 ans, c'est très très mal vu. Aujourd'hui, le recycler devient, et ça c'est ce qui facilite un peu le métier, c'est que ça devient un outil marketing. Aujourd'hui, le recycler est bien vu, la réutilisation, la revalorisation, c'est bien vu. Donc les entreprises sont plus enclins à le faire. Il y a plus d'acteurs qui souhaitent avoir de la matière secondaire, ce que j'appelle de la matière secondaire. Chose qui était beaucoup moins le cas.
Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui est très intéressante. Moi, je me posais plutôt la question de comment se fait le choix de retourner vers la grande distribution. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'est de par le paysage dans la région? Je pense que c'est la grande distribution est très présente dans la métropole lilloise. Et aussi, une autre question par curiosité, quels sont les outils que vous utilisez pour faire de la CV, comment que ça se passe dans le quotidien? Personnellement, je ne suis pas du tout en mécanique, je suis en informatique, donc c'est le genre de question qui peut m'intéresser.
Ouais. En effet, tu as raison, la grande distribution est très présente dans le Nord, les mulliers ils sont très présents, et il y a quand même des grosses entreprises là-dessus, sur le sujet. C'est que moi, là, je me suis rendu compte donc, au bout d'un an, et c'est pour ça que j'ai voulu changer. En fait, donc, j'ai été dans le public chez Roubaix, à Roubaix. J'ai moins N+1 qui est parti au bout de 3 mois, j'ai moins N+2 qui est parti au bout de 6, et j'ai eu personne pendant les 6 mois d'après. Et c'est quand même, c'est potentiellement une vérité selon les acteurs publics. Des fois, ça peut être un peu plus long qu'en privé, parce que c'est normal, c'est de l'argent public, donc il y a plus de, on fait moins ce qu'on veut avec, donc c'est normal. Mais du coup, je voulais revenir à quelque chose que je connaissais plus, et en tout cas qui d'un point de vue management m'irait mieux, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de revenir, en sachant que là il y avait une des parties de ma mission continuera à être sur le sujet. En fait, je voulais pas revenir sur un métier qui n'avait pas ça dans une des compétences à avoir et à mettre en application. Et donc là, il y avait ce métier chez ADO avec la casquette ACV. Donc voilà. Et après, la deuxième question qui était sur les ACV en tant que tels et quel logiciel. Il y a pas mal de logiciels qui se font sur les ACV, en effet. Du logiciel très technique, comme CimaPro, par exemple, qui est le plus connu, à des logiciels beaucoup plus simplifiés pour essayer de faire, pour démocratiser un peu l'ACV. On a essayé de trouver un juste milieu chez ADO, parce que nous, notre objectif à terme, c'est que aujourd'hui, on a 4 ingénieurs et conception qui font les ACV pour le marché au sens là, pour plusieurs marchés. Donc, moi, c'est le marché jardin, comme je vous ai expliqué. Il y a d'autres ingénieurs éco-conception là-dessus. Et nous, notre objectif, c'est que les ingénieurs produits sachent quand même l'utiliser pour qu'ils soient en autonomie sur le sujet. Et donc, on a choisi le logiciel EcoDesign Studio, qui est un peu plus simple d'accès et qui, pour autant, est quand même technique derrière. Et en fait, quand on parle d'ACV, il y a toujours la logique logicielle et après, il y a toujours la logique base de données. En fait, c'est deux choses qui vont être très différentes, mais la base de données est vraiment importante dans l'ACV. Et nous, on utilise la base EcoInvent, qui est la base la plus internationale possible et qui a le plus de modules possibles aujourd'hui.
J'ai une dernière question pour toi pour finir et qui prendra un peu la suite de la question précédente. Tu disais qu'il fallait compléter le triptyque de la qualité classique, coût, délai et qualité par un pilier environnemental. Et à l'oral, tu as aussi mentionné le social, l'aspect social. Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour ça ou comment, dans ton métier, toi, tu vois ces questionnements sociaux ou sociétaux arriver et comment tu pourrais les prendre en compte?
Alors, je m'y connais quand même un peu moins sur la partie sociale. Aujourd'hui, on n'a pas d'outils. Et puis même, je vais revenir sur la partie environnement. Aujourd'hui, quand vous êtes en entreprise, c'est une ACV, mais très très logique carbone qui est effectuée. Le reste des indicateurs est peu regardé, en tout cas c'est encore difficilement mesurable, mais bon, c'est déjà une première étape de penser via l'empreinte carbone, qui en règle générale est quand même un bon guide, on va dire. Sur la partie sociale, aujourd'hui, chez ADO, on n'a pas d'outils spécifiques. Par contre, ce qu'on fait, ce qui est un peu plus classique dans les boîtes, c'est déjà de faire des audits sociaux de ces entreprises. Donc, combien d'heures par semaine je veux, quelle est la limite maximum que j'autorise mes sous-traitants à travailler, qu'est-ce que j'accepte dans les conditions sociales, au niveau du board, est-ce que je veux un minimum d'homogénéité, de sexe, etc. Donc ça, c'est des outils plus classiques d'entreprise, en tout cas, de réaliser des audits sociaux. Mais dans le développement produit aujourd'hui, ça existe, en tout cas dans le privé, ça existe moins. Dans le public, c'est un peu plus demandé. J'ai envie de dire un peu à juste titre, parce que dans le public, le social est vraiment une des réponses que vous devez apporter, sur la partie sociétale. Dans le privé, je pense que c'est encore très peu utilisé.
Merci Victor pour ton intervention, pour tes réponses à ces questions. Merci d'être revenu à l'UTC après avoir fait des études ici. Et merci à Graphi qui a enregistré, qui retransmettra cette conférence. Merci à toutes et tous qui étaient présents ici. Vous pouvez revenir jeudi pour l'intervention de Picassoft, Quentin Duchemin, qui est un ancien de l'UTC, qui intervient aussi dans certaines UV, viendra nous parler de l'engagement qu'on peut avoir en tant qu'étudiant, ingénieur, dans des associations. Et vendredi, deux collègues du Génie des procédés, enseignants-chercheurs, viendront nous parler de projets qu'ils mènent en lien avec des sujets de préoccupations environnementales, notamment la valorisation des biodéchets et l'assainissement des eaux, qui sont deux sujets qui nous intéressent à l'UTC et qui intéressent aussi l'agglomération de la région de Compiègne. Merci.
Merci beaucoup.
Cette conférence a été enregistrée le 3 mars 2025 à l'Université de technologie de Compiègne, avec le concours de Christophe Menu pour les moyens techniques, une conférence organisée par la Direction à la transition écologique et à l'engagement sociétal de l'UTC, Valentin Legauche et Isabelle Caillot. Retrouvez ce programme à la demande sur graphite.net.